On a ensuite le traditionnel rapport du délégataire de la SPL Liliade pour l'année 2022-2023 et des équipements culturels Liliade et la Villa. Donc vous avez pu prendre note des éléments qui sont inscrits dans le rapport, je ne vais pas vous les détailler. Et donc il a fait l'objet d'une adoption au conseil d'administration de la SPL Liliade le 13 février 2024. Il a été transmis à la ville le 1er mars 2024. Il est passé en commission consultative des services publics locaux le 14 mars 2024, qui a émis un avis favorable sur ce rapport sous la présidence de M. Scheuer. Et donc il est demandé au conseil municipal de prendre acte de la communication du rapport annuel du délégataire SPL Liliade pour l'année 2022-2023, équipement culturel Liliade et la Villa. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Oui, Madame Gendreau. Et Madame Longchal.
Merci Monsieur le Maire. Effectivement, une fois par an, lors de la présentation de ce rapport d'activité annuelle de la SPL, qui concerne donc la gestion de nos établissements, Liliade et la Villa, nous avons l'occasion de faire le point sur la politique culturelle que vous menez dans notre ville. En m'appuyant sur ce rapport, je souhaite à mon tour faire un bilan de votre action. Tout d'abord, vous avez commencé par changer l'orthographe et les logos des deux établissements. Un choix et une décision approuvés ni par le conseil d'administration de la SPL, ni par le conseil municipal. Et pour concevoir les nouveaux logos et les plaquettes de saison, vous avez passé commande à une graphiste installée à Marseille, qui obtient cette commande depuis 4 ans. N'y avait-il donc aucune agence de communication locale capable de proposer cette prestation? Ensuite, vous nous avez dit avoir réorganisé les équipes de la SPL. Quand on s'intéresse à l'évolution de l'organigramme, plus que de la réorganisation, c'est de suppression de postes qu'il s'agit. En personnel permanent, il y avait 37 équivalents temps plein en 2020, vous en avez supprimé 9. Il y avait 5 salariés en charge de la programmation culturelle, il n'y en a plus qu'un à la Villa et un à Liliade. Vous avez recruté Mme Christelle Kern en 2022 au poste de directrice de Liliade. 6 mois plus tard, elle avait disparu de l'organigramme sans aucune explication. Enfin, depuis 4 ans, l'organigramme indique qu'un directeur général est en cours de recrutement. 4 ans sans arriver à recruter un directeur général, c'est bien que l'attractivité du poste a beaucoup décliné. C'est long et le poste est toujours vacant. Venons-en maintenant à votre bilan culturel que vous n'aviez fait qu'effleurer lors du débat sur les orientations budgétaires. La culture pour tous, voilà votre credo, en tout cas dans les propos. La culture pour tous, mais aussi la baisse des budgets que la ville y consacre. À propos de culture pour tous, voyons les résultats obtenus en 4 ans. Et pour ça, intéressons-nous au public qui en bénéficie et donc au bilan de la fréquentation, puisque chaque année, le rapport d'activité annuel nous en donne le détail. Commençons par l'Iliade et la saison culturelle. Comme l'avait fait le cabinet de Loate que vous aviez mandaté pour faire un audit de la SPL en 2021, je prendrai comme année de référence la saison 2018-2019, puisque l'année suivante avait été fortement impactée par la fermeture due à la crise du Covid. En 2018-2019, l'Iliade accueillait plus de 25 000 spectateurs, dont 2257 abonnés. En 2022-2023, l'Iliade a accueilli 20 168 spectateurs, dont 1600 abonnés. 5000 spectateurs et 650 abonnés perdus en 4 ans. Je continue avec le printemps des bretelles. En 2018-2019, le festival IN, c'est-à-dire les 27 spectacles payants au Magic Mirror et à l'Iliade, accueillait plus de 7500 spectateurs. Sans compter tous les spectateurs du festival OFF, une centaine de concerts gratuits à l'Iliade et dans les bars et restaurants de la ville. L'an dernier, le printemps des bretelles, avec une programmation réduite à 13 spectacles, n'a accueilli que 3300 spectateurs. 4200 spectateurs perdus pour le festival. La saison 2022-2023, c'est donc 26 460 spectateurs. La saison 2019-2020, c'était 2018-2019, c'était 32 500 spectateurs. Donc, au total, plus de 9 000 spectateurs perdus en 4 ans. Beau résultat pour votre politique culturelle qui devait être plus accessible et moins élitiste. Intéressons-nous maintenant à la Villa, aux enseignements artistiques. Lorsque la Villa a ouvert ses portes en novembre 2015, nous avions plusieurs objectifs. Tout d'abord, offrir un lieu adapté aux pratiques artistiques amateurs, mais aussi élargir l'offre en créant de nouveaux formats d'enseignement afin qu'un plus grand nombre puisse en bénéficier. Un lieu ouvert permettant les rencontres et les projets artistiques en décloisonnant les disciplines. Et aussi des actions culturelles à la Villa et hors les murs, en lien avec le centre socioculturel et l'éducation nationale, pour permettre à tous les publics d'avoir accès à une pratique artistique. C'est ainsi que sont nées les vacances artistiques et le festival Nomadas, en partenariat avec le Centre socioculturel, l'orchestre à l'école des Burman, les classes découvertes proposées à toutes les écoles de la ville, l'accueil de tous les enfants des classes de grande section maternelle de la ville toute l'année pour les initier aux différentes disciplines artistiques. Tout cela en partenariat avec l'éducation nationale. Commençons par le bilan du chapitre intitulé « La villa, bien plus que de l'enseignement artistique », qui décrit toutes les activités autres que les cours. Je peux reprendre exactement ce que j'ai dit l'année dernière. Les festivilas, le programme d'activités et parcours sur temps scolaire, les expositions, les auditions et concerts des élèves, l'accueil des élèves des établissements de la ville pour des spectacles à l'Iliade, sur tous ces sujets, le rapport d'activité ne mentionne aucune activité en 2022-2023, comme il l'avait déjà fait en 2021-2022. Ce rapport obligatoire, qui doit rendre compte de l'ensemble des actions et projets mis en œuvre en application de la délégation de services publics attribuée par la ville, ne donne aucun élément sur ces actions. Dont acte, aucune activité. Tout un pan de la DSP qui n'est pas réalisé, d'après ce que nous en relate le rapport, voilà ce qui nous est dit pour la deuxième année consécutive dans l'indifférence générale des élus de la ville qui versent une subvention de 1 900 000 euros à la SPL pour la réalisation de ses missions. Continuons par le bilan de l'enseignement artistique à la villa. Pour les cours annuels, qui représentent le socle de l'école municipale, nous comptions 1659 élèves en 2019. Ils ne sont plus que 1369 en 2023, 300 élèves de moins. À son ouverture en 2015, la villa proposait une offre innovante avec des formats courts allant de stages de 6 semaines aux ateliers duo pour les 6-11 ans. Ceci afin de pouvoir répondre à la demande de tous ceux qui souhaitent bénéficier d'un enseignement sans avoir la disponibilité nécessaire à un engagement annuel. Cette proposition innovante et inhabituelle au sein d'une école municipale a rencontré un grand succès. Monsieur Steinhardt, qui avait présenté au conseil municipal l'audit commandé par la ville sur la gestion de la SPL en janvier 2022, avait souligné l'intérêt de ces formats courts qui comptaient beaucoup de participants, d'autant plus qu'ils étaient bénéficiaires. Vous avez pourtant supprimé l'ensemble de ces stages et formats courts pour leur substituer une autre offre, les dimanches à la villa. Vous avez remplacé des stages où, selon vos dires, il n'y avait personne, par ces dimanches qui auraient un franc succès. Venons-en à la réalité des chiffres. En 2018-2019, il y avait eu 51 ateliers duo avec 314 inscrits. En 2022-2023, il y a eu 4 ateliers duo avec 34 inscrits. Je continue par les stages, puisque là aussi, vous nous avez dit avoir mis bon ordre à tous ces stages qui n'avaient pas assez d'élèves et qui coûtaient cher. Voyons les chiffres. En 2018-2019, il y avait eu 51 stages pour un total de 438 heures d'enseignement et 227 participants. En 2023, il y a eu 23 stages pour un total de 44 heures d'enseignement. Vous avez donc supprimé au total 47 ateliers duo et 28 stages. Vous avez supprimé 400 heures d'enseignement. L'offre actuelle, c'est donc moins de 10% de ce qui existait. Et des 541 inscrits de 2019, il n'en reste que 324 en 2023. La villa a perdu 217 participants qui venaient pour ces stages, autant de personnes qui étaient heureuses de venir à la villa et qui n'y viennent plus. Et en termes de coûts, pour quelle économie? Vous perdez 800 euros de bénéfices, puisque contrairement à ce que vous avez souvent répété, l'ensemble de ces stages ne coûtait rien à la ville, ils étaient bénéficiaires. Pourquoi avoir supprimé ce que fonctionnait? Donc, pas pour faire des économies. Serait-ce juste votre entêtement à défaire ce qui a été fait par d'autres que vous, en sacrifiant au passage plus de 200 élèves qui vous en sont certainement reconnaissants? Cours annuels et tous stages confondus, la villa accueillait 2135 élèves en 2019, 1686 en 2023. Voilà votre bilan. La villa a perdu 430 élèves en 4 ans. Ces 430 élèves ne vous disent pas merci. Cette saison 2022-2023 a vu l'entrée en vigueur de la nouvelle tarification, la tarification solidaire en fonction du quotient familial, qui était une de vos promesses de campagne. Votre objectif affiché était de rendre les cours à la villa plus accessibles en fonction des revenus des familles. Cette nouvelle grille tarifaire entraînait pour les Île-Kirchois un maintien ou une augmentation du prix pour les 3 tranches supérieures de la grille et une baisse progressive pour les 5 tranches suivantes. J'avais approuvé cette nouvelle grille tarifaire, tout en rappelant que, comme tous les professionnels de la culture le savent, le prix ne fait pas tout. Même la gratuité n'a jamais suffi à faire venir les familles les plus éloignées de la culture. Toute baisse de prix ne saurait suffire si elle ne s'accompagne pas d'actions culturelles fortes, de médiation culturelle, de passerelles entre la villa et les établissements scolaires, le sens socioculturel, actions que vous avez supprimées et pour lesquelles la SPL n'a plus aucun budget. Suite à ce changement de tarification, ce rapport, pour être conforme avec ce qu'il doit être, devrait nous indiquer la répartition des inscriptions à la villa par tranche tarifaire. Il ne nous communique pourtant aucune donnée à ce sujet. Pour tous les services publics de la ville qui donnent lieu à une tarification solidaire, les services nous informent en détail de la répartition par tranche tarifaire. Nous avons voté les tarifs solidaires, mais ce rapport ne nous communique aucune donnée nous permettant d'évaluer ni son impact immédiat, pas plus que d'avoir une visibilité sur la répartition actuelle des élèves par tranche tarifaire. Il est inacceptable que le délégataire ne nous communique rien à ce sujet, alors que c'était une innovation et la seule de l'année. Présente à la CCSPL, dont le PV est d'ailleurs joint, j'ai demandé aux représentants de la SPL présents que nous soient communiquées ces données, demande qui a été acceptée. Pourtant, elles ne nous ont pas été transmises. La seule réponse qui m'a été apportée oralement lors de cette réunion est qu'au vu du nombre stable des élèves et de la hausse significative des recettes par rapport à la saison précédente, on peut en déduire que la majorité des élèves paient plus cher que l'année précédente et donc font partie des trois tranches tarifaires les plus élevées. Voilà ce qu'on peut qualifier d'études circonstanciées et d'évaluation fiable de l'efficacité d'une décision politique. Vous aviez promis ces tarifs solidaires dans votre programme, nous les avons votés. Vous avez coché la case. Et après, suis-je la seule intéressée à savoir si la baisse des tarifs pour ces familles au quotient familial les plus bas leur a permis d'inscrire leurs enfants à la villa? Car c'était bien là l'objectif. Comme d'habitude, passé le temps de la communication, l'évaluation des décisions et le suivi de leur efficacité et de leur pertinence par rapport à l'objectif fixé ne semblent pas beaucoup vous intéresser. Pour conclure, je souhaite aussi dénoncer l'interdiction faite aux parents cet hiver d'accompagner, et bien au-delà de la durée du plan Vigile Pirate, d'accompagner et d'attendre leurs enfants à l'intérieur du bâtiment pendant la durée de leur cours. Ils sont nombreux à avoir apprécié de voir multiplier les allers-retours ou patienter dans leur voiture. Pour parachever le tout, déjà fermée depuis 3 ans pendant toutes les vacances scolaires, la villa, depuis la rentrée 2023, est fermée aussi le samedi après-midi. Nos professeurs, qui animent souvent des ateliers et des pratiques collectives ce samedi après-midi, vont donc maintenant travailler dans d'autres écoles municipales le samedi après-midi. Et les enfants n'ont plus qu'à trouver d'autres loisirs pour occuper leur week-end. Que diriez-vous, que dirions-nous, si tous les clubs sportifs de la ville refusaient dorénavant d'accueillir les enfants et les jeunes le samedi après-midi? La culture pour tous, mais ils sont en réalité beaucoup moins nombreux qu'avant à en bénéficier. La culture pour tous, mais pas pendant les vacances et pas le samedi après-midi. Je vous remercie.
Merci. Madame Lonchal.
Donc, il est proposé aujourd'hui au Conseil municipal de prendre acte de la communication du rapport annuel de la SPL. Iliad, comme je l'ai souligné lors de la commission qui a examiné ce rapport, il ne me paraît pas acceptable que le rapport annuel soit présenté en avril 2024 pour un exercice clos en juin 2023. Un tel délai, 9 mois après la clôture, me paraît être le reflet de dysfonctionnements internes que nous ne pouvons cautionner. Quant à la qualité du service, je ne reviendrai pas sur tous les constats faits à juste titre par Madame Gendreau, qui sont extrêmement détaillés et précis. Il y a effectivement beaucoup à dire. Monsieur Lévy nous a assuré lors de la réunion de la commission qu'il souhaitait redynamiser à la fois l'Iliade avec l'embauche d'un directeur opérationnel et la villa, où il souhaite, nous a-t-il dit, que cela bouge un peu plus. Bon, quelque part, et il confirme donc le constat qui a été fait des carences actuelles. Donc nous espérons que tout cela va se produire. Cela me permet aussi, ce point à l'ordre du jour, me permet aussi de vous questionner sur les mesures effectives qui ont pu être mises en place pour le suivi de la DSP en réponse au rappel au droit numéro 7 du récent rapport de la Chambre régionale des comptes. Merci.
Merci, Madame Lonchal. Madame R, je vous en prie.
Merci. Alors, je ne vais pas reprendre point par point ce qui a été noté. Il y a quelques petites choses qui m'ont été frappées, puisqu'il faut bien expliquer qu'en fait, ce rapport concerne l'année 2022 et l'année 2023, et que nous fonctionnons de la fin du mois du 1er juillet à l'année suivante. Ce n'est pas une année du mois de janvier au mois de janvier. Alors, Madame Gendreau, vous revenez systématiquement sur les mêmes choses, les nomades art, tout ce que vous avez fait n'était pas parfait. Et si je peux vous faire un compliment, ce qui est rare, c'est que vous avez effectivement organisé des choses, mais vous n'avez pas su les faire évoluer. C'est-à-dire que les nomades art, pour ma part, où j'ai eu l'occasion d'y aller lorsque je n'étais pas élue, ça ne remportait pas un franc succès. Donc voilà la raison pour laquelle cela n'existe plus. Aller là-bas pour dessiner des papillons à trois enfants qui étaient là, personnellement, je n'en vois pas l'intérêt. Ensuite, en ce qui concerne l'orchestre à l'école, orchestre à l'école existe toujours. Monsieur le maire, chaque année, vient à la remise des instruments qui concernent les élèves. Le nombre est stable, il n'y a pas de problématique, les professeurs sont les mêmes. Ensuite, vous insistez sur le nombre d'élèves qui fréquentent la villa. Alors là aussi, j'ai l'impression de faire un bis repetita à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, je vous rappelle qu'il y a eu quelque chose qui s'appelle le Covid, qui a fait en sorte que la culture a pris effectivement du plomb dans l'aile et qu'il a été très difficile de faire revenir des gens. Je ne reviendrai pas non plus sur le fait qu'il y avait un prestataire qui existait à la villa lorsque, je ne sais pas si vous y étiez encore, qui proposait du rock, et que cette personne est partie avec environ 200 élèves. 200 élèves que nous n'avons pas récupérés, et pour une fois, je suis hors de cause, je n'étais pas encore là. Ensuite, vous insistez sur les duos. Alors, les duos, pour expliquer à mes collègues, c'est donc une prestation qui est proposée par un enseignant, un professeur ou un prestataire extérieur, et qui propose à un parent et un enfant de participer à une activité commune. Alors, le constat qu'on peut faire par rapport au taux de fréquentation qu'on a vu, c'est que ça remporte un succès, mais plutôt chez des petits, c'est-à-dire des enfants de 3 à 5 ans, et non pas 6 à 10 ans, comme vous le préconisiez. C'est quelque chose qui fonctionne mieux avec des plus petits et les parents qui participent. Ensuite, vous avez indiqué qu'on avait changé, que j'avais souhaité changer systématiquement tout ce que vous aviez fait. Non, mais hélas, il y avait beaucoup de choses à changer. Donc, vous indiquez les formats courts. Alors, j'explique à mes collègues, j'ai changé ce format court et ce format long. Le format long, c'est le cours d'enseignement. Et le format court, eh bien, c'est le « et » avec un « t », c'est le stage. Alors, simplifions les choses, appelons les choses par leur nom. Il y a des cours, C-O-U-R-S, et des stages qui s'écrivent comme ça se prononce. Donc, ce qui a été proposé, ce que vous proposiez à l'époque, c'était des stages tout au long de l'année, le samedi, le dimanche, si je ne m'abuse, à des horaires un petit peu qui éclataient sur un planning. Le but a été de rassembler justement tous ces gens pour venir au même moment et qu'il y ait une saine émulation, parce qu'il m'est arrivé d'assister à des stages où trois petits gamins venaient tout seuls, étaient tout seuls dans la villa avec leur professeur. Je ne trouve pas que ce soit une manière très, très, très amusante pour les enfants de suivre un cours. Là, ils sont nombreux et on peut dire effectivement qu'à la fin de tous les stages qui sont proposés, qui ont lieu donc les dimanches à la villa, ont lieu 7 fois dans l'année et proposent à chaque fois une prestation différente à un public de tranches d'âge différentes. Alors, ça fonctionne. Je me suis rendue dernièrement au concert qui clôture chaque dimanche à la villa, et il y a un monde conséquent. Donc, ne vous en déplaise, c'est un petit peu comme ça. J'ai noté ensuite, ah oui, le printemps des bretelles. Alors, le printemps des bretelles, vous avez vu que nous allons avoir cette année une nouvelle version, mais il ne vous est jamais venu à l'esprit, et ça me titille un petit peu, c'est de vous dire qu'après 25 ans de la même proposition du printemps des bretelles, il n'y a pas un moment où ce n'est pas l'équipe municipale en place et sa politique culturelle qui serait à mettre en cause sur le fait qu'il y ait de moins en moins de participants, mais que tout simplement les choses s'étiolent. Il faut proposer des choses différentes. Au bout d'un certain temps, au bout de 25 ans, eh bien, les gens ne viennent plus forcément, ce n'est plus le même public, il faut le stimuler par quelque chose de nouveau. Et ensuite, vous parliez d'une répartition financière, la répartition tarifaire, effectivement, par tranche, de tarifs. Alors ça, je peux comprendre que ça vous intéresse, mais enfin bon, on ne va pas se leurrer non plus. Je pense qu'une étude plus détaillée peut vous être effectivement fournie, mais force est de constater effectivement que c'est, comme cela vous a été répondu, je pense, au CA, c'est que c'est les tranches les plus élevées qui sont les plus participatives aux activités de la SPL. Et enfin, pour finir, avec les alors ce que vous évoquiez sur la fermeture de la villa au moment de cet hiver. Alors j'explique simplement les choses. Personnellement, lorsque j'étais PDG de cette société, quelque chose qui m'affole un petit peu. C'est-à-dire que des parents ont tendance à venir pour déposer leurs enfants, à repartir et à venir chercher leurs enfants ensuite. Mais d'autres ont tendance à considérer que la villa est un centre de loisirs. C'est-à-dire qu'en fait, on dépose son enfant le matin, puis on le recherche à midi. Ça pose un gros problème de sécurité et cela m'étonne que vous ne vous en soyez pas préoccupé auparavant. Qu'est-ce qu'on va dire à un petit garçon qui vient ou à une petite fille qui vient, que ses parents déposent, le pauvre, il n'y est pour rien, et il y a un incendie. Alors, on demande aux professeurs d'avoir un listing des élèves, ils font l'appel, et c'est tout à fait normal. S'il se produit quelque chose qui n'est pas normal, l'évacuation du bâtiment doit avoir lieu, et les élèves et leurs professeurs doivent se retrouver à l'extérieur à un point de ralliement. Qu'est-ce qu'on fait de ces petits-enfants qui sont venus tout seuls? On les trouve où? On sait où ils sont? On sait ce qu'ils font? On va les retrouver? Donc, c'est un problème de responsabilité. Je suis d'accord sur le fait que c'est un endroit qui doit vivre, mais il y a aussi des règles à respecter et il y a des problèmes de sécurité qui sont à mettre en place, auxquels il faut prêter une attention particulière. Voilà, je crois avoir fait le tour. Je vous remercie, monsieur le maire.
Merci, Madame Gendreau, vous vouliez réagir?
Juste pour dire que je suis bien consciente que les choses évoluent, puisque moi-même, je les ai fait, je pense, fortement évoluer en 12 ans. Ben, si entre l'école municipale qui existait et la villa, je pense qu'il y a une légère petite évolution. On est passé de 800 élèves dans une école répartie sur 12 sites, tous un peu vétustes, pour un bâtiment unique qui accueillait 2600 élèves. Donc je pense avoir contribué à une petite évolution. Maintenant, sur les stages, je suis désolée, madame Mère, vous comparez deux choses qui ne sont pas comparables. Sur les stages, vous comparez deux choses qui ne sont pas comparables. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de faire les dimanches à la villa avec des propositions différentes à chaque fois, une heure de yoga une fois, une heure de danse contemporaine une autre fois, une heure de danse de salon une troisième. Ce n'est pas l'enseignement, c'est de la découverte, c'est de loisir, c'est de l'initiation, ce n'est pas de l'enseignement, on est d'accord. Bon, nous, ce qu'on avait mis en place, les stages de 6 semaines, c'était ni le samedi ni le dimanche, c'était en semaine, le soir. D'ailleurs, parfois, ça se greffait sur les cours annuels. C'est le même enseignant qui accueille les élèves en stage, en plus de ceux qui étaient là toute l'année. Voilà. Et c'était 12 heures d'enseignement spécialisé sur une thématique définie. Voilà. Ce n'était pas de la découverte d'une initiation de format d'une heure. Donc il y a une vraie différence en termes de contenu. Et donc quand je dis qu'avant il y avait une offre, j'ai tout calculé dans le détail, hein, j'ai vérifié à plusieurs reprises. Avant il y avait une offre au total de 438 heures de stage. Voilà, pas le samedi et le dimanche, 438 heures d'enseignement sous forme de stage. Aujourd'hui, enfin en 2022-2023, il y en avait 44 heures. Voilà, ça c'est réel. Donc quand on parle d'enseignement, on parle d'une perte de 400 heures, une offre de 400 heures d'enseignement qui a disparu. Ça ne remet pas en cause le fait que le dimanche soit un succès. Très bien, bravo, je félicite, j'en suis ravi pour ceux qui le fréquentent. Je pense à tous ceux qui venaient à ces stages de 6 semaines et à qui on a dit, bah non, c'est fini, rentrez chez vous, il n'y a rien à voir. C'est soit toute l'année, soit c'est fini.
Merci, Madame Gendreau. Madame R, et après on conclut.
Oui, on conclut. Juste une chose, effectivement, le fait de proposer des stages pendant 6 semaines, il y avait une offre très complexe. Et quand vous dites, vous avouez vous-même, voilà, vous dites en nombre d'heures, mais vous ne parlez pas des élèves. C'est pas parce que vous proposez quelque chose en taux horaire, une proposition pédagogique, c'est pas le nombre d'élèves. Ah, vous l'avez le nombre d'élèves? Moi, je l'ai. Bon. Donc, vous voyez, on peut jouer sur les mots, c'est un petit peu compliqué. Hein. Je vous remercie, monsieur le maire.
Merci. Bon, sachant qu'il y a quand même eu une commission consultative des services publics locaux. Après, sur des éléments plus chiffrés sur la répartition, c'est au délégataire de le faire. Et donc, on demandera au délégataire. sachant que pour répondre à Madame Longchal qui demandait ce qui avait été mis en place, on a mis en place une personne qui suit ce sujet-là de la délégation de services publics, qui est Madame Le Limerle, qui est directrice déléguée auprès du directeur général, donc qui suit ça tout au long de l'année et qui d'ailleurs avait aussi préparé la CCSPL et avait préparé toute la documentation et fait les éléments à transmettre au conseil municipal. Donc c'est bien elle qui suit, qui regarde que les choses soient bien faites. Après, je pense que c'est l'année 2022-2023, c'est intéressant, mais ce qu'il faut regarder, c'est peut-être la progression et la perspective qu'il y a. Je pense que cette année, il y a un certain nombre de choses qui sont faites, et Madame Maire en parlait, avec le printemps des bretelles qui sera 100% gratuit et qui sera dans une période peut-être un peu plus favorable, puisque c'est vrai que sous le soleil, avec des températures des fois plus agréables, c'est peut-être plus sympathique pour un festival aussi, avec une programmation qui garde des fondamentaux, mais qui permet d'évoluer aussi sur un certain nombre de propositions, d'aller attirer aussi un public, parce que c'est vrai que la problématique, mais on l'a vécu d'ailleurs sur les activités culturelles, comme sur les animations de la ville, aujourd'hui, les animations, que ce soit les fêtes de Lille ou autres, il a fallu aussi les retravailler, il a fallu les faire évoluer, il a fallu faire d'autres propositions. Il faut garder en fait le fondement de la manifestation et puis voir comment on peut aussi capter un autre public. Et effectivement, après le Covid, il y a eu quand même beaucoup de difficultés pour récupérer le public dans les salles. Parce que je suis désolé, mais pour le coup, pour aller régulièrement dans différentes salles de concert, de théâtre, de spectacle, je n'ai pas vu la même fréquentation et le même public. Ça fait, je pense que c'est depuis cette année peut-être, ou quand je vais à l'opéra, quand je vais au ballet ou quand même je vais au cinéma, je commence à voir de nouveau parfois des fréquentations de salles qui sont intéressantes, qui se rapprochent de ce que j'ai connu avant. Mais je peux vous dire que je me suis senti souvent seul dans des représentations l'année dernière et les années d'avant. Donc, pour le coup, j'aime la culture et justement j'ai envie de la faire découvrir à mes concitoyens. Mais pour aller aussi dans beaucoup de lieux ailleurs, et même en région parisienne où il y a eu aussi une offre culturelle assez riche dans notre pays, j'ai pas vu dans les théâtres et autres beaucoup de monde, juste notamment 2022-2023, il y a une reprise mais qui est lente. Et d'ailleurs on le voit, puisque chaque année on a une augmentation de nouveaux d'élèves à la Villa qui est progressive, on a de nouveau une augmentation de fréquentation des spectacles à l'Iliade, avec des taux de remplissage, on le disait la dernière fois, qui avoisinent les 90% pour la plupart des spectacles, ce qui est quasiment assez inédit, qui n'avait pas été forcément connu dans les autres programmations. Donc il faut aussi laisser peut-être du temps au temps, être patient, faire ce qu'il faut pour réattirer aussi le public. Je pense que la tarification sociale et solidaire aujourd'hui, c'est un outil. Après, comme tout outil, il faut savoir le faire vivre, il faut savoir le valoriser. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont menées. Il y a des choses qui sont aussi mises en place au niveau du centre socioculturel pour compléter l'offre culturelle et justement créer un pont entre le centre socioculturel, qui est quand même assez important dans le secteur Liberman, vers la Villa, puisque le but aussi parfois c'est de faire des activités ponctuelles et de donner envie d'aller dans une activité plus régulière qui est pratiquée à la Villa. Et aujourd'hui on a une tarification qui permet aussi de correspondre, tout en ayant maintenu quand même les coupons art et sport qui sont auprès du CCAS et qui permettent encore d'écraser le tarif et qui fait qu'on peut faire une activité pour très peu cher à l'année. Donc il y a énormément de choses qui sont proposées. Il y a une diversité de cours qui sont en train d'être travaillés aussi pour la rentrée prochaine, pour augmenter le nombre d'offres qu'il y aura au niveau de la Villa. Il y a toute une programmation culturelle aussi cet été. Le but cet été aussi, par exemple, dans les concerts, dans les cours d'école, c'est de pouvoir faire des concerts qui soient d'un niveau supérieur. Et donc aussi bien de pouvoir faire de l'opéra, du théâtre ou des spectacles que normalement on ne met pas dans des lieux publics et qui seront là ouverts à tous les habitants de la ville. Et le but de le faire dans les cours d'école, c'est bien d'aller au plus près des habitants de la ville. Et donc comme on a des écoles vraiment bien réparties dans la ville, on a potentiellement des spectacles pour toute la ville et pour tous les habitants de la ville et qui seront totalement gratuits. Donc je pense qu'on ne peut pas faire plus que faire des offres qui sont gratuites, parce qu'en dessous, on ne sait pas faire. Je pense qu'on ne va pas non plus commencer à distribuer de l'argent pour que les gens viennent au spectacle. Mais je pense que l'offre culturelle qui est promise aujourd'hui est tout à fait satisfaisante. Après, c'est sûr que voilà, il y a une période de Covid, il y a une période où tout était fermé, il y a une période où il a fallu redonner confiance aux personnes de revenir dans des activités parce que les gens étaient inquiets, mais comme dans d'autres activités, hein, de revenir et de ressortir, de repasser du temps, de peut-être ne pas rester à la maison le soir, ce qui n'était pas évident après le Covid, où les gens avaient quand même redécouvert le plaisir d'être chez soi et pas forcément à l'extérieur. Et donc voilà, progressivement, les choses reprennent leur cours. Les activités sont faites, mais je ne vais pas répéter ce que Mme Dreyfus avait dit l'année dernière. Elle avait tout détaillé avec les écoles et autres. Et d'ailleurs, pour avoir été régulièrement ces derniers temps auprès de classes de CM2 dans le cadre de l'Odyssée citoyenne, à chaque fois, on me remercie pour le PAPS, on me remercie pour toutes les activités qui sont proposées. Alors, je pense que les enseignants ne sont pas en train de trahir et de dire juste que c'est bien parce que le maire vient. Enfin, parce que pour le coup, quand il y a une panne sur un TBI ou quand il y a un nid de poule dans la cour de récréation, c'est me le dire aussi. Donc je pense vraiment que les enseignants apprécient de pouvoir avoir cet éveil et ces activités qui sont proposées et qui n'existent pas forcément dans toutes les villes de France. Donc je vous propose de prendre acte de la transmission de ce rapport. Est-ce qu'il y a des votes contre la prise d'acte ? Des abstentions ? Oui, on prend acte, mais c'est obligatoire de faire un vote. Si, c'est le code général des collectivités territoriales, mais c'est le code général des collectivités. Il y a même eu des affaires devant le Conseil d'État qui ont annulé des délibérations puisqu'il n'y a pas eu. Donc, mais c'est pas grave. Allez-y, Monsieur Barman.
Simplement, Monsieur le maire, si, alors bon, prendre acte, c'est prendre acte, mais bon. Mais il me semble quand même que les membres qui siègent à la SPL ne doivent pas participer à ce vote. Bon, c'est un détail, mais puisque vous tenez absolument à ce que nous votions sur quelque chose où on prend acte, je pense qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout du formalisme dans ce cas-là, même si je doute que jusqu'à présent, toutes les délibérations où nous avez pris acte, et ça remonte à il y a très très longtemps, puisque c'est la dernière, il n'y a que le dernier conseil municipal où vous nous avez demandé de voter pour prendre acte, soient toutes entachées d'irrégularités. Hein.
Ben justement, c'est parce qu'on a eu des alertes, mais comme toutes les collectivités territoriales de France, puisqu'il y a eu des affaires auprès du Conseil d'État qui ont annulé justement des délibérations de ce type-là où les gens prenaient acte parce qu'il n'y avait pas de vote formel sur le fait de prendre acte. Et que toute délibération en France doit disposer d'un vote formel en dessous. Et donc c'est pour respecter juste le formalisme de dire les gens ont voté. Mais c'est vrai qu'on ne vote pas sur le fond, on vote juste sur... Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de problématique forcément que les gens de la SPL puissent prendre acte, puisque c'est juste le fait que vous ayez tous eu autour de la table une transmission du document et que vous l'avez bien réceptionné. Donc est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions ? Je vous remercie. Et donc